One, two, three.
Bonsoir, je suis Mathilde Serrel.
Et je suis Martin Kénéen.
Moi, Boris Charmat.
Bonsoir, je suis Alain Guyard.
Et ce soir, il nous entraîne à réfléchir par le corps.
Ping-pong. La culture sans limite.
Oh, yeah.
Édito.
La culture sert à tout, même à regarder sous les paniers d'osier. Dimanche, Nicolas Sarkozy, distancé par Alain Juppé dans les sondages pour la primaire à droite, a fustigé une élite qui aime, avec son panier en osier, aller acheter des œufs frais. Ses supporters ont applaudi, les commentateurs ont commenté à l'envi, et pour ma part, je me suis demandé pourquoi tant de haine contre les paniers d'osier. Pour les œufs frais, je ne me suis pas inquiété, sachant que depuis des années, les jeunes disaient les œufs pour désigner les euros. Aller en chercher de bien frais à la coquille dorée est une tâche que Nicolas Sarkozy pratiquerait, dit-on, de longue date, mais plutôt avec des mallettes. Mais le panier d'osier, mystère. Je me suis donc documenté pour sonder les secrets de cette histoire de vannerie et j'ai appris que, sous nos latitudes, le saule, dont les jeunes pousses constituent l'osier, est l'arbre de la liberté et des gens du voyage. Ok, gauche Tarama et Romanichel dans le même panier. Et puis j'ai lu qu'outre les paniers, le bois de saule servait à fabriquer des battes de cricket et du fusain pour les artistes. Et hop, quelques oisifs de plus dans mon panier d'osier. Mais le saule a encore des vertus médicinales et ses principes actifs ont été synthétisés pour inventer l'aspirine. Le vote bourgeois donnerait-il des maux de tête à Nicolas Sarkozy ? Et puis quand j'ai découvert qu'en Chine, le saule était également le symbole de l'immortalité, j'ai pensé que si Nicolas Sarkozy avait des envies de petit bois, c'était qu'il voyait peut-être sa fin approcher et qu'il avait l'idée qu'après lui, plus rien ne repousserait. Mais le saule est enfin pleureur. Pour les grands romantiques et les gens guettés par la mélancolie, aussi me suis-je soudain senti ému, pour ne pas dire un peu apitoyé par les récriminations d'un candidat bien seul en campagne.
J'ai lié ma botte avec un brin de paille. J'ai lié ma botte avec un brin d'osier.
Trêve de confiserie, tout pour la France, le livre programme tressé par Nicolas Sarkozy est publié chez Plon. J'avais envie de savoir, Alain Guyard, est-ce que vous êtes plus panier d'osier, vous le philosophe vagabond, ou vous êtes plus diable à roulette pour aller au marché ?
Ah, je serais plutôt tenté quand même par le panier d'osier, parce qu'effectivement, il y a toute cette dimension un peu comme ça du Romanichel qui va sur les routes et se promène avec sa roulotte. Et ça, c'est tout un imaginaire qui m'est très cher.
Boris Charmat, vous danseriez sur du Alain Souchon comme ce qu'on vient d'écouter?
Je pensais plutôt à l'idée de faire un ping-pong où ce serait vous qui seriez interviewé par nous. Hein. Donc, ça
avec des raquettes en osier
ou... Et voilà,
en saule.
Et des œufs en guise de balle.
Voilà, ah, si vous voulez.
Ah, ça, ce serait sa promesse.
On peut inverser. Bon, on nettoiera le studio 108, évidemment.
Et vous avez l'air d'avoir très très bien préparé et nous, non. Donc, on serait dur d'inverser tout de suite, mais demain, rendez-vous même heure et on.
On vous sait improvisateur.
Ouais. Et c'est carnaval et renversement. Tout à l'heure, on aura du son de la Réunion. C'est du Maloya évolutif, à défaut d'étiquettes vraiment précises. On se contentera de celles-ci. Ils seront aux alentours de 19h30 dans Ping Pong.
Mathilde Serrel, Martin Kénéen, Ping Pong.
Sortez de cet espace. Sortez de mon cerveau. Sortez de cet espace. Sortez de mon cerveau. Tout. Sortez de cet espace. Sortez de mon cerveau. Sortez de cet espace. Sortez de mon cerveau. Sortez de mon esprit. Sortez de mon territoire. Quittez mon cerveau. Sortez de mon territoire. Quittez mon cerveau. Sortez de mon territoire. Quittez mon cerveau. Dormir.
De la danse éclatée dans l'espace et sur du béton. Pour ma part, j'étais du côté de la friche industrielle de Black Box. C'est à Aubervilliers, hein, c'est du côté du métro La Courneuve. C'est la MC93 qui est dans cet espace en ce moment. Boris Charmat, on a entendu ces personnes qui sont plus des personnes que des danseurs, combinaisons de moto, djellaba, blousons à franges, des hommes lucioles qui portent des panneaux et qui éclairent un spectacle mouvant. C'est votre danse de nuit qui a été présentée donc dans ce cadre, mais qu'on trouvera aussi du côté du musée du Louvre, dans le cadre du Festival d'automne. Vous serez également dans le cadre des Beaux-Arts, donc vous déplacez ce spectacle au-delà de ce contexte industriel que nous, on a pu voir ce week-end. Vous aviez déjà travaillé sur l'espace public avec Fou de danse. Pourquoi pour vous, là, il y avait urgence et nécessité d'y retourner, de le réinvestir, ou comme le dit cet activiste anglais des années 90, John Jordan, de « reclaim the street ».
Bah c'est vrai qu'on est tous, hein, autant qu'on est passionnés ou marqués par un moment où on a un désir d'assembler très fort. Et c'est des assemblées de paroles, des assemblées citoyennes, le fait de effectivement réclamer la rue ou retrouver, de se questionner sur c'est quoi l'espace public, en quoi l'espace est-il public, est-ce qu'il est encore public, est-ce qu'il y en a, est-ce que il y a des gens qui disent c'est de l'espace commun, c'est pas de l'espace public. Et moi j'avais envie en tant que danseur aussi qu'il y ait des assemblées chorégraphiques, qui est pas, je dirais, en résonance ou parallèlement à d'autres types d'assemblées qui sont debout, assises, de paroles, de protestations, de demandes, etc., qui est aussi des assemblées juste sur le côté, quoi, un peu différentes, qui seraient des assemblées chorégraphiques, mais qui pourraient prendre des formes très variées. Donc, danse de nuit, c'est une manière de faire une assemblée chorégraphique. Fou de danse, vous le citiez, une sorte d'événement, de protocole, je dirais, de travail sur une immense place publique à Rennes, qui a eu lieu l'an dernier, et puis cette année, au printemps, qui a rassemblé, je crois que cette année, il y a eu 16 000 personnes, hein, qui sont venues, c'était incroyable. Mais c'est l'idée de prendre une place, de l'occuper de midi à minuit, par la danse, et du coup, c'est une danse qui est vraiment un médium pour l'espace public, parce qu'il n'y a pas de scène, il n'y a pas de gradin, les mouvements s'échangent en direct, on ne sait même pas bien qui est performeur, qui est visiteur, qui est passant, qui est spectateur. Et puis on, dans Fou de danse, on fabrique une sorte de danse infinie comme ça de 12 heures avec des projets très différents. Il y a des enfants qui dansent, il y a des amateurs, ils ont des grands professionnels, il y a des danses sociales, il y a des danses d'art, mais tout ça fait un seul et même mouvement, je dirais, de perméabilité des corps dans l'espace public. Et moi, j'ai l'impression qu'on, je suis pas du tout le seul, mais j'ai vraiment l'impression qu'on a un espace public qui est bourré d'angoisse, de peur, ça va des lois sur le voile au terrorisme, ça va de la privatisation des espaces publics à.
Il y a aussi un petit peu de traçage, de tracking, hein.
Voilà.
De données dans votre spectacle.
Voilà. Et du coup, il y a une nécessité comme ça de retourner dans la rue, de faire de la danse urbaine. Mais pas seulement de la danse hip-hop qui s'appellerait de la danse urbaine, mais aussi de réinventer ce serait quoi faire de la danse urbaine aujourd'hui, mais ou de la philosophie urbaine ou de la ou autre chose.
Mais si on parle justement de la danse, de la chorégraphie, Boris Sharmatz, dans Danse de nuit, il y a quelque chose qui tourne fou. On n'a plus de prise, les danseurs, les danseuses n'ont plus de prise les uns sur les autres. L'image m'est venue, peut-être parce qu'on était à côté de la commune de Pantin désarticulé. Ce geste, j'ai pensé aussi à un geste chorégraphique à l'arrache, comme on dit, désordonné, fiévreux. Au fond, c'est l'idée de fièvre qui, moi, m'a saisi. Alors après, il y a NTM qui fait une apparition dans le spectacle, mais est-ce que vous pourriez nous éclairer sur cette fièvre ?
Joey Starr n'est pas
là. Oui, il n'est pas là.
Sur cette fièvre qui secoue, qui agite, qui s'empare des corps.
Bah, je crois que c'est la fièvre d'aujourd'hui, non ? On peut se poser la question de comment est-ce qu'on réagit, dans quel état on est, qu'est-ce qu'on a envie de dire, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et j'ai eu l'impression que c'était par la vitesse qu'on pouvait s'en sortir. C'est-à-dire qu'au lieu de se demander quel geste poser aujourd'hui pour l'espace public ou pour la cité, ou pour d'en faire beaucoup, d'en faire plein. L'un de nos exercices a été de dire n'importe quoi en bougeant n'importe comment. C'était la base du spectacle. Donc et c'est pas si facile que ça de faire n'importe quoi, ou de dire n'importe quoi. Et on a essayé de le faire très vite. Parce qu'on se disait, si on prend vraiment le temps, on est dans une posture, on va dire, un peu scolaire. de l'explication, de la voix qui se pose, du geste qui se pose, et au contraire d'être effectivement dans l'agitation, dans la folie,
Bouger les mains en même temps. Hein.
Oui, je dirais
ça tourne dans le cerveau.
Oui, dans l'idée qu'il y a une pléthore comme ça de mots, de gestes, d'actions qui viennent, et qu'à l'intérieur de ça, il peut y avoir des choses bêtes parce qu'on improvise, on dit des bêtises, on a quand même travaillé cette pièce, on a préparé pendant de longs mois, je dirais. On insère à l'intérieur de ça des intelligences, soit des fulgurances improvisées, soit des bouts de texte de la chorégraphie préparée, ou des bouts de texte de Tim Mitchells, des choses qui font sens, qui sont tout d'un coup beaucoup plus complexes, mais qui ont l'air d'être improvisées, un peu comme on dessine des caricatures, des dessins, quelque chose comme ça qui est très instantané.
La danse de rue, la danse urbaine, en reprenant le sens premier du terme de Boris Charmat, qui s'invente, qui tourne autour d'elle-même. Vous inventez aussi votre philosophie de rue. Alain Guyard, on le voit dans ce documentaire que vous présentez aussi en personne, que vous défendez sur les routes de France, la philo vagabonde de Johan Lafaure. Justement, vous allez dans une multiplicité de lieux. Je parlais d'un éclatement tout à l'heure de l'espace théâtral dans la pièce de Boris Charmat. Vous aussi, vous éclatez totalement l'espace de la philosophie. On va vous retrouver du côté des maternités, mais aussi en prison, sous un chapiteau. Vous allez dans les hôpitaux psychiatriques, vous allez dans les mouroirs, vous accompagnez un nombre invariable de gens et de lieux. Donc comment est-ce que vous aussi, vous avez construit un peu votre carte, quoi, votre chorégraphie dans l'espace ?
Oui, c'est moi je suis très touché d'être aux côtés de Boris ce soir parce qu'effectivement il me semble qu'on a une démarche analogue. Moi ce dont j'ai pâti, si vous voulez, à propos de la philosophie, on pourrait un peu revenir à l'acte fondateur de la philosophie, c'est quand même la mort de Socrate, quoi. Et ça a été vraiment un traumatisme pour son suivant qui fut Platon, et la question de la philosophie, je crois qu'elle se déplie en deux. Alors c'est bien sûr essayer de saisir les idées. Alors ça, bien sûr, le philosophe y arrive très bien. Mais l'autre côté qui est beaucoup plus tragique, c'est pas la saisie des idées, c'est comment ensuite en témoigner, en porter témoignage aux autres hommes. Et toute la dialectique platonicienne et l'histoire du mythe de la caverne, c'est monter aux idées. C'est un mouvement qui est formidable et dans lequel le philosophe excelle. Mais après, il y a le deuxième mouvement, c'est redescendre dans la caverne, riche de ses idées, et être capable de trouver le milieu idoine qui va pouvoir les accueillir. Et cette question-là, en fait, elle est vraiment la question... Elle est, je crois, le déni même de la philosophie. La philosophie, elle est toujours pensée comme un acte de spéculation, mais elle est jamais pensée comme étant cet acte à la fois politique et quelque part spectaculaire, qui consiste à dire, il faut que je m'expose dans un territoire, qui est un territoire, effectivement, alors commun, public, on ne sait pas, et dans lequel le philosophe s'expose en même temps qu'il expose ses idées. Et ça, je crois que c'est un des moteurs qui me pousse, moi, à aller à la fois exposer de la pensée et m'exposer, moi, à des publics différents et à des univers à la fois mentaux et politiques différents.
Et quand vous vous exposez, c'est peut-être un peu à la manière d'un Diogène qui promenait, dit-on, un hare en sort en laisse, notamment hein, quand il se baladait pas avec une lampe en plein jour pour chercher un homme. Et vous y insistez, on l'entend dans La philo vagabonde, ce documentaire qui vous est consacré, donc dont vous êtes le super-héros, Alain Guyard. Vous y insistez, et c'est peut-être ce qu'on ressent aussi dans La danse de nuit, la proposition de Boris Charmat, qui revient notamment sur les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère, et qui cherche pas à nous réjouir en nous rassemblant à tout craint. Vous nous dites, la philosophie c'est important parce que ça nous rend malheureux.
Malheureux au sens où il faut faire l'expérience de la perplexité. Et de la tension. On n'est pas dans l'abandon et dans le relâchement. Donc je pense que là, il y a effectivement encore peut-être une passerelle qui peut se tisser. Peut-être que ce qui joue aussi dans les corps dans l'espace urbain, c'est que très souvent ils sont soumis à une logique qui est celle de l'impératif de la balistique. Moi, j'ai passé l'après-midi à me promener dans les rues de Paris et j'avais vraiment le sentiment que les foules se déplaçaient non pas animées par un mouvement propre, mais animées par les signaux et les codes qui sont ceux du code de la route. Il faut se déplacer quand le feu est vert, s'arrêter quand le feu est rouge. Et au fond, on est là face à des corps qui sont dépossédés de leur propre dynamique et qui sont des corps mus par une balistique, qui est une balistique politique, qui cherche à organiser l'espace urbain. Et je crois que c'est la même chose aussi dans le psychisme, c'est-à-dire que la philosophie, elle ne doit pas servir à être un développement personnel ou une manière de se contenter de soi ou d'accéder au bonheur. Mais je pense qu'elle doit, procéder de cette espèce de, comment dire, d'état dans lequel soudain on est aux aguets, on est aux abois, et enfin on peut retrouver une tension intellectuelle, voire même une tension existentielle. Et c'est quand on éprouve cette tension existentielle, qui est parfois sans doute est douloureuse, mais on se sent vraiment intensément vivant, vous voyez ? Donc ça, c'est quelque chose que j'essaie de provoquer quand je descends dans ces lieux-là.
Vous dites que vous êtes un provocateur, Alain Guyard, justement au sens étymologique, celui qui est là avant l'appel, pour que justement quelqu'un se saisisse de cet élan, vous le portez, c'est un petit peu aussi votre démarche, Boris Charmatz, vous lancez l'appel aux spectateurs de saisir la danse que vous proposez. Comment est-ce que vous concevez ce rapport justement au public? Parce que dans cette expérience danse de nuit, effectivement, on est déplacé dans ce qu'on peut avoir, nous, comme habitude de spectateur. On vit aussi un petit peu la latence et l'expérience philosophique d'Alain Guyard.
En fait, on avait envie d'être complètement forain, mobile. C'est-à-dire qu'on, par exemple, juste avant d'être à la Courneuve, on dansait à Athènes sur une place, Kotsia Square. Il y a des gens qui passent, il y a des migrants, il y a des enfants, il y a des gens qui viennent nous voir aussi. Et on avait envie d'inventer une forme d'art qui soit complètement hybride avec les lumières de la ville, avec la cité, etc. Et du coup, on a inventé une forme de chorégraphie où les lumières sont portées. C'est des lumières qu'a inventé Yves Godin. En plus, c'est très particulier parce qu'il porte, il y a des porteurs de lumière, on va dire, qui éclairent en partie le spectacle, mais c'est fugace, c'est fugitif, c'est très contrasté.
Et qui tournent le dos au spectacle.
Voilà, et c'est des lumières qui viennent, c'est comme des sacs à dos un peu, en fait. C'est le dos qui éclaire. Donc c'est très compliqué pour eux parce qu'ils éclairent pas ce qu'ils voient. Ils éclairent ce qui est dans leur dos, et c'est aussi, je trouve que ça évoque un peu cet état de perplexité qui est dans la pièce ou peut-être qui nous rassemble là.
Peut-être qu'il y a aussi une réflexion sur la caverne de Platon,
voilà,
là où on
d'éclairer, pas ce qu'on voudrait voir, peut-être ce qu'on voudrait oublier, mais qui est toujours là, ou des gestes fantômes, des choses comme ça. Et du coup, c'est vrai que la chorégraphie, elle est complexe parce que il y a une sorte de logorée ou même de glossolalie comme ça, quasi permanente des danseurs, qui est mêlée d'actions. Donc c'est pas juste des prises de parole, c'est des actions avec des mots et des gestes qui se mêlent.
Il y a du théâtre.
La lumière, elle bouge, et en fait le public fait aussi complètement la chorégraphie parce qu'il se déplace avec nous, il nous empêche de danser aussi, il nous empêche d'aller ici ou là, et nous on les bouge, donc c'est
bouge.
ça fait une chorégraphie globale, je dirais, et très perméable aux gens qui viennent, mais aussi du coup au contexte dans lequel on intervient. Là c'est à la Courneuve.
Et à cet égard, c'est assez inquiétant.
Hier, c'est à
même.
Athènes, demain, c'est...
Quand on est dans la nuit pour cette danse de nuit, guidée par les lampes, à un moment, moi, je l'ai ressenti comme si j'étais un poisson dans un banc de poissons et que vous pêchiez à la lampe, au lamparo, comme on dit, et que il y avait peut-être, m'a-t-il semblé, une interrogation sur notre docilité. Aussi à suivre la lumière, parce que quand elle s'éteint tout d'un coup, les corps se frôlent, on est angoissé, parce que ça parle aussi de l'angoisse et de la peur contemporaine, en particulier à Paris. Vous interrogiez notre servitude volontaire.
Ben c'est vrai qu'en plus là, c'est ce qui était très très impressionnant à la Courneuve, c'est une ancienne halle industrielle, hein, Babcock, c'est des grosses chaudières qui étaient construites là pendant des années, là, ça a été abandonné, c'est un drôle de lieu, c'est immense, c'est plus grand que certaines places publiques sur lesquelles on a pu répéter, par exemple l'arène. C'est vraiment immense. Donc c'est une sorte de caverne, mais dont on verrait pas les parois. Et avec nos petites lumières, je pense beaucoup à la ronde de nuit de Rembrandt, des choses comme ça. Et c'est vrai que on a un peu peur dans cet espace-là. C'est très noir. Alors que quand on joue sur des places publiques avec des lumières de bureaux, des voitures qui passent, en un sens, bizarrement, c'est presque plus confortable d'être sur une place qui est habitée. Là, on rentre dans un lieu noir. On commençait le spectacle en disant, venez, on va commencer là-bas, dans le noir, aux spectateurs. Et moi, j'aimais beaucoup ça, ce déplacement-là. Mais c'est la nuit, elle permet aussi beaucoup de fantasmes, les peurs, les angoisses, mais aussi des rêves comme ça de qu'est-ce qu'on pourrait inventer la nuit.
Il y a le second degré aussi qu'abordait Martin sur cette moutonnade un petit peu que peut vivre le spectateur, qui nous fait réfléchir justement à notre propre servitude. C'est presque l'esclave qui prend conscience de sa condition. On est presque justement dans la philosophie hegelienne. Justement, vous abordez Alain Guyard, Nietzsche, entre autres, dans l'une des conférences, que c'est vrai que on l'a pas encore dit, on y reviendra, mais selon les lieux, vous défendez aussi des concepts qui s'adaptent aux populations qui vous écoutent. Et voilà, j'aimerais que vous entendre sur cette démarche, et notamment lorsque vous parlez de Nietzsche, vous parlez de cette nécessité de s'arracher au confort dominant. Est-ce qu'il y avait une notion comme ça de réflexion sur la moutonnade, la propre servitude finalement du public et du spectateur chez vous?
Oui, de toute façon, elle est là, elle nous travaille. Hein. Le grand souci de la philosophie dès ses origines, c'est effectivement essayer de s'arracher un petit peu à ce que Nietzsche appelle la morale du troupeau. Hein. Ce qui est terrible aussi dans le travail philosophique, c'est que lui-même, il en sécrète et il en fabrique. Parce qu'il y a déjà des positions, des postures du philosophe en chair, et puis de l'auditoire qui écoute et qui reçoit la leçon, qui en définitive reconstruit une nouvelle servitude. Donc la grosse difficulté quand on est confronté à la philosophie, c'est que elle est peut-être un discours qui nous invite à devenir notre propre maître, mais ce discours est tellement structurant, tellement académisé, qu'en définitive, il construit déjà des postures, et même des postures physiques. Des postures physiques de l'écoute. Et donc d'une écoute qui est une écoute dans laquelle on consent à être dépossédé de soi, quoi. Donc il faut essayer de travailler à détricoter tout ça. Reconstruire effectivement aussi des espaces qui vont changer le rapport à l'écoute. Et ça aussi, ça demande à changer le rapport au corps écoutant et au corps parlant.
On peut penser par le corps, donc chez vous, Alain Guyard.
Non seulement on peut penser par le corps, mais c'est le corps qui détermine la qualité de la pensée, hein, c'est certain. Hein.
Dans la nuit, je me suis uni à la nuit. À la nuit sans limite, à la nuit, mienne, belle, mienne, nuit de naissance qui m'emplit de mon cri, de mes épis, toi qui m'envahis, qui fais houle, qui fais houle tout autour et fume, effordance et mugit, est la nuit. Nuit qui gît, nuit implacable, et sa fanfare, et sa plage en haut, sa plage partout, sa plage boit, son poids est roi, et tout ploie sous lui, sous plus ténu qu'un fil, sous la nuit.
Dans la nuit, poème d'Henri Michaud, une lecture inspirée, une archive de Radio France, de l'INA. J'ai pensé à Henri Michaud en découvrant votre spectacle Danse de nuit, Boris Charmatz, à propos du titre du recueil dans lequel on trouve ce poème Dans la nuit. C'est l'espace du dedans. J'ai eu l'impression que si la nuit c'est l'envers du jour, vous, ce que vous mettez au jour dans votre spectacle et ce qui danse, ce sont les pensées, les paroles, les intentions qui sont dans votre tête. Est-ce que dans la nuit, c'est aussi dans la nuit de votre tête que tout d'un coup vous, impudiquement, vous nous offrez?
C'est vrai qu'on imagine souvent
spectacle.
La danse comme étant l'endroit visible, hein, de la représentation, de ce qu'on voit. On construit des corps pour les montrer, pour qu'on les admire. On construit des formes de corps idéaux aussi, qui ça résonne un peu à ce que vous disiez pour la philosophie, qui empêche aussi les gens de danser. D'une certaine manière, on fait asseoir les gens. Notre danse arrête le mouvement des autres quelque part. Hein. Donc là, Moi, j'aime bien l'idée qu'au contraire, la danse est liée au sommeil, est liée à un espace mental, vraiment. Donc moins, c'est un espace physique aussi, mais pas plus, pas moins que la philosophie pourrait l'être. Donc c'est un endroit de, effectivement, de ce qui est dans la tête. Et moi, c'est ce que j'aime bien. Et dans le spectacle, ça devient encore plus peut-être évident. En tout cas, vous l'avez vu comme ça parce qu'il y a une logorée, parce qu'il y a un torrent de mots qui passe par des endroits très très différents. Si on faisait l'analyse des textes qui sont dans ce spectacle, c'est n'importe quoi, encore une fois. Il y a la comptine du grand cerf, vous savez, dans sa maison, un grand cerf qui regardait par la fenêtre. Il y a des bouts de rap, il y a des bouts de...
Salman Rushdie, people qui dégénèrent et qui forniquent.
Il y a un mot sur cette litanie de la désinformation, des people complètement déviants, des Kardashians, Bezos, Yalen...
C'est un vrai texte, mais c'est un vrai texte complètement tordu, coupé, comme ça.
Mais qu'on vous doit...
Grande liste. Non, c'est un texte...
Jack Nicholson se branle sur les pages sous-vêtements d'un catalogue de vente par correspondance.
Le deviez, mais non, c'est un texte de Tim Hetchel, c'est un écrivain dramaturge qui travaille, qui est l'un des fondateurs de Force Entertainment, ce collectif de performance britannique, qui est pas si connu que ça comme écrivain, et en fait c'est un écrivain extraordinaire. Et dans le spectacle, il y a deux textes de lui qui sont les deux vrais textes. Il y a un qui s'appelle Starfucker, c'est celui-là, et moi ce que j'aime bien, c'est que ce sont des images, en fait. C'est chaque ligne, c'est anecdotique, pornographique, social, c'est un personnage célèbre, mais comme il y a dans cette longue liste, il y a 600 personnages célèbres, donc forcément on n'en connaît que la moitié. C'est que des icônes comme ça médiatiques, et ils font soit quelque chose d'anecdotique, soit quelque chose de pornographique. On sait pas, et ça enchaîne sans fin, c'est complètement coupé. Mais à chaque ligne, c'est une scène, c'est un moment comme ça. Et le deuxième texte de Tim Hetchel, c'est le dernier, qui s'appelle Erasure, effacement, qui est un peu le pendant de celui-ci sur l'effacement, sur l'anonymat, essayer de se perdre dans la foule, de ne pas laisser de traces, et ça résonne tout autrement, mais ça complète en fait ce premier texte.
On était dans la poésie de Tim Hetchel. Il y a aussi un choix dans cet espace du dedans que décrit Henri Michaud et auquel faisait référence Martin. Il y a cette idée d'une musique du dedans. C'est-à-dire que là, on est quand même dans un spectacle de danse où volontairement, vous n'avez pas recours à des musiques additionnelles. Vous décidez que les vibrations, les chants viennent des danseurs. Pourquoi Brecher-Matt?
J'aime bien ça, parce qu'en fait, on imagine souvent que la danse, elle doit être complétée, en fait, par la musique, par la critique, par du texte, et de se dire non, en fait, s'il y a du son, c'est le bruit des danseurs, s'il y a de la musique, c'est ce qui passe dans notre tête, s'il y a du texte, c'est le déroulé de notre pensée qu'on n'arrive pas à couper, y compris des pensées qu'on voudrait, dont on voudrait s'échapper. Il y a des gestes qui reviennent alors qu'on aimerait les oublier, et c'est ça qui est présenté. Donc c'est pas seulement des textes, on se dit ah, tiens, on va mettre en scène des textes, on va les chorégraphier, c'est le discours intérieur, c'est vrai, hein, c'est beaucoup ça, c'est beaucoup le... Alors je sais pas si c'est que ma tête, je crois que c'est peut-être ma tête, mais ma tête comme un exemple de ce qui pourrait passer dans les têtes de tout le monde, finalement.
1, 2, 3. Vous écoutez Ping Pong sur France Culture, et vous êtes dans la tête de nos invités à l'affût de leurs pensées anecdotiques, pornographiques et poétiques.
Ping Pong. La culture sans limite.
Comment connaître le son du futur? Plutôt que de jouer les oracles de la modernité, certains décident d'être les cultivateurs d'un paysage musical encore en friche. C'est le cas de 5 réunionnais de graines sémées, en créole la graine que l'on sème, mais attention, pas n'importe où. Aujourd'hui, nous voulons vous parler de ces agri-musiciens qui font pousser leur son sur le béton des grandes villes, comme vos danseurs, Boris Charmatz. Ils nous racontent la rue qui se ride de jeunesse, qui se noie de pouvoir, comme le scande le chanteur-conteur du groupe Carlo De Sacco. Mais c'est aussi un son qui pousse dans un champ de canne à sucre, connecté au réel par le geste, comme chez vous, Alain Guyard, lorsque vous défendez l'artisan philosophe. Avec Graine Sémée, la poésie Anard de Ferré croise celle de Daniel Warraud et Firmin Viry, ces artistes du Maloya, le blues réunionnais, interdit par les autorités coloniales jusqu'au milieu des années 70. Graine Sémée invente sa musique inclassable et autonome, comme autant de semences post-Monsanto, une musique hors sol.
Nos vaches sont suspendues à 1 mètre du sol. Se souvient du soleil, s'acclimate au sous-sol. Les légumes que l'on sème voyagent plus que nous-mêmes. et sur le trône nos fesses rivalistes de blême. On pelouse nos jardins, nos allées, nos chemins, et l'on passe notre enfance à se laver les mains. Il arrive que mon cœur, à l'approche d'un cyclone, soit content d'oublier les grandeurs d'un diplôme. Hydroponique, tête aux gouttes, à gouttes. Si nous regardons les arbres, c'est qu'on s'ennuie de la route. Et je pense à ces livres qu'on ne doit raturer. On respecte les arbres, on ne sait les aimer.
Dans le studio 108, ici pour Ping Pong, c'était en live sur France Culture. L'album Hors Sol, comme le titre Hors Sol que vous venez d'entendre, sortira à la fin du mois d'octobre. Et le 14, vous les retrouverez dans le cadre du Mama Festival en concert. Bravo messieurs.
Ping Pong, la culture sans limite.
Et des gens, ils s'imaginent, c'est ça qui est vachement important. Des gens, ils se disent, ouais, la philo, c'est vachement cool, c'est bien de faire de la philosophie parce que grâce à ça, tu résous tous les problèmes. De la merde, c'est pas vrai. La philosophie, ça sert pas à résoudre les problèmes. La philosophie, ça sert à compliquer les problèmes. Si vous rentrez dans la philosophie, vous allez en chier des ronds de chapeau, ma parole. Hein. C'est des oursins que vous allez trouver au fond de votre froc. Hein. J'aime autant vous le dire. Hein. Voilà, mon objectif, c'est surtout pas clarifier les choses. Hein. C'est vraiment foutre la merde. J'adore ça.
Mais quand on prête pour la parole, que dit Didi,
tu parles là. Je que les buts, je suis la vie d'en faire.
D'accord, gendarme.
Ça va être la pire.
Ainsi parlait Alain Guyard. Au cœur de ce documentaire, La philo vagabonde, signé Johan Lafort, un documentaire qui est déjà dans toutes les bonnes salles, que disons, toutes les bonnes cavernes, à découvrir donc aussi en chair, en os et en verbe. Vous serez à Nancy dans 2 jours, Alain Guyard, et plus loin encore, puisque ça chemine chez vous, et non seulement votre activité, on vous voit vous déplacer dans ce documentaire dans un véhicule utilitaire, pour une philosophie qui n'a rien d'utilitariste. Il y a cette phrase, ce verbe aussi qui chemine, on l'entendait dans ce court extrait qui est l'incipit, l'ouverture de ce documentaire. Est-ce que vous pouvez nous parler du verbe, de cette langue structurée qui est celle de la philosophie et de son rythme? Vous avez écrit d'ailleurs sur le rythme et la philosophie.
Oui, oui, c'est vrai. Il y a de fort longues années déjà.
Il en reste quelque chose.
Vous n'êtes pas si vieux, je te dis aux
autres. Vous êtes trop gentille. C'était Derrida qui disait que la philosophie c'était une sous-catégorie de la littérature. Il a sans doute pas tort, mais en même temps, elle peut être une littérature orale. Et c'est là, je crois, aussi où elle prend tout son sens. Quand elle est une expérience dialectique, dialoguée, et qu'elle est une langue qui se confronte à l'interlocuteur. De ce fait, ça veut dire que, il faut aussi ne pas hésiter à la pétrir, à la transformer, à la modeler, pour qu'elle puisse s'adapter au territoire langagier qu'elle va fréquenter. On parle pas de la même manière lorsqu'on parle à un détenu qui a été très peu scolarisé, et quand on parle à une assistante sociale, ou quand on parle à des gens dans un café philo. De telle sorte qu'il n'y a pas de langue neutre en philosophie, et il n'y a pas... C'est une erreur de s'imaginer que la philosophie peut être du hors-sol, pour reprendre finalement l'expression de nos amis musiciens. La philosophie, elle s'ancre, elle se souche dans un territoire langagier, et il faut être très conscient des codes langagiers qui sont requis. Il faut aussi ne pas en être dupe, et savoir, s'il le faut, les briser, pour maintenir les conditions de l'écoute et de l'attention.
Alors justement, on va parler de ces codes langagiers que vous utilisez et de ce territoire que vous balayez avec votre philosophie de forain, c'est le mot que vous utilisez. Je précise aussi aux auditeurs que vous avez tatoué sur une main rien et tatoué sur l'autre tout. C'est dire si vous défendez plusieurs écoles de philosophie dans la transmission, mais pas dans l'idée d'en imposer une en particulier. Et donc, on l'a dit tout à l'heure, vous allez donc dans les prisons, dans les HP, sous les chapiteaux, dans les foyers, dans les bistrots, un petit peu partout. Comment est-ce que vous adaptez justement les concepts que vous proposez, puisque finalement, c'est une boîte à outils beaucoup plus qu'un tour de manège, Alain Guyard.
Oui, voire un tour de magie. Mais si vous voulez... C'est là où je crois que mon travail se distingue vraiment du travail du conférencier, et même de la conférence gesticulée, hein, pour faire référence à Franck Lepage. C'est que il y a un très long travail préparatoire de mon côté, pendant plusieurs mois, lors desquels j'essaie de comprendre ceux-là qui veulent m'accueillir, dans quel univers ils évoluent, et quelles sont leurs problématiques philosophiques viscérales. Et c'est ensuite que je vais mettre dans une disposition où je vais essayer de répondre en quelque sorte à leur appétit, à leurs désirs ou à leurs attentes. Donc vous voyez, je viens pas moi avec, pour ainsi dire, un discours ou un système philosophique, mais c'est exactement le contraire. Je pars du principe que les gens sont là porteurs en fait d'une disposition à philosopher, et je vais au fond les accompagner pour déployer le geste existentiel propre dont ils sont porteurs. Donc ça veut dire que je travaille, j'ai presque envie de dire a posteriori et pas a priori. Donc il y a un vrai travail d'écoute et de labour où je reçois beaucoup de ce qui se joue dans les territoires et les populations que je vais fréquenter.
Il y a un exemple par exemple. Ouais. Excusez-moi, j'ai envie d'être dans la tautologie. qu'est-ce que vous pourriez nous raconter comme interférence a posteriori entre un public et un concept?
Bon, le meilleur exemple pour moi, c'est descendre en prison, et en prison, non pas poser la question de la distinction entre le juste et l'injuste, ou le bien et le mal, mais démarrer tout simplement en racontant la vie de Socrate, et rappeler que Socrate peut être fondateur de la philosophie, mais il est aussi le premier homme incarcéré, hein, qui était condamné, et c'est dans la prison même qu'il va commencer à faire de la philosophie. Et les premiers textes de philosophie, ça n'est rien d'autre que des retranscriptions de conversations de parloir. Et moi, je démarre avec ça, avec les détenus. Et avec eux, je triture les questions qui hantent Socrate. Qu'est-ce que c'est avec la belle vie? Qu'est-ce que c'est qu'une belle vie? Qu'est-ce que c'est que bien vivre? Et ces questions-là, elles sont posées à partir du mitard, quoi. Et ces questions-là, je les pose avec les détenus, à partir de l'espace fréquenté par Socrate, quand lui-même était au mitard. Là, ça prend un retentissement existentiel considérable. Vous imaginez bien que la pensée, elle revêt un caractère viscéral. Elle n'est pas du tout une espèce de bijou culturel dont on s'orne comme ça pour briller dans les soirées mondaines. Est-ce donc ça peut être, je pense, un exemple par exemple.
Merci, je vous en prie.
Ce qu'il y a de viscéral aussi, et on l'entend pas jusqu'ici parce que vous êtes dans le contexte langagier d'un plateau de France Culture, c'est aussi toute la dimension fleurie de votre verbe et votre plaisir. Vous parlez de désir, d'appétit, de pétrir la langue, les concepts, la pensée, et vous y allez aussi avec le sexe, disons-le, avec la chair. Et il se trouve qu'il y a du sexe également, Boris Sarmatz, dans votre danse de nuit, des gestes tendres et violents, on appelle le public, montre-nous tes seins, au cœur de votre danse de nuit. Il y a des insultes sexistes également. Vous interrogez, vous questionnez avec la danse de nuit le sexe, non pas dans la philosophie, mais dans l'espace public.
Oui, c'est vrai que je ne sais pas ce qui reste de ça dans le spectacle au final, mais au départ, on se disait voilà, là j'avais envie de la face nord un peu de ce qu'on peut faire dans l'espace public. Donc c'est pas un spectacle qui est pour 4000 personnes ou 16000 comme dans Fou de danse. Hein. C'est déjà quand il y a plus de 250 personnes, on a l'impression que les gens vont plus assez entendre, voir. Donc c'est quelque chose de très très serré comme ça, comme on suit des flambeaux quoi. Et j'avais envie qu'on questionne aussi les limites comme ça de l'espace public et qu'on se permette parce qu'aussi on a commencé sur les caricatures, sur la durée de vie des dessins, sur l'instantané, la réaction instantanée, parce qu'on dit toujours que la danse est éphémère, c'est l'art éphémère, et moi au moment où Charbet est mort, et ça, je me disais, mais bien sûr, ces dessinateurs sont morts, mais aussi, quelle est la durée de vie des dessins d'humour? Moi, j'adorais Petit Reiser. J'ai re-regardé toutes ces caricatures, ces dessins, en me disant, qu'est-ce qui reste de cet humour-là? Qu'est-ce qui reste du contexte? Un dessin qui cite Nicolas Sarkozy, un an plus tard, on a oublié ce que disait Nicolas Sarkozy. Donc, comment est-ce qu'on on reconstruit le film qui a fait que ce dessin-là a existé, nous a fait rire ou pas, nous a fait réagir? Donc, ça m'intéressait. Et à l'intérieur de ces questionnements-là, j'avais envie qu'il y ait effectivement de la sexualité et de l'espace public mêlés. Alors, on a décidé de ne pas être du tout dans la nudité. Il n'y a pas du tout de nudité dans le spectacle, contrairement à pas mal de spectacles que j'ai pu faire auparavant. Mais par contre, il y a un langage qui est parfois très cru. C'est encore une fois Tim Hatchells, où il y a des séries. C'est Jim Carrey qui baise Linda Fiorentino, Edward Norton qui baise Natalie Portman, George Michael qui baise Whitney Houston. Et à chaque fois, c'est des images qui s'enchaînent en fait, jusqu'à l'absurde, etc. Et puis dans la gestuelle, c'est globalement une gestuelle plutôt brute, hachée, arrachée. Mais il y a aussi des contacts, assez peu en fait, dans la pièce. Mais où il y a des contacts où il y a à la fois une main qui arrache des cheveux. C'est un geste de cascadeur quasiment en fait. On fait semblant d'arracher les cheveux de quelqu'un, mais en fait tient au poignet, donc en fait ça arrache pas les cheveux, mais il y a l'image de ça. Et on fait la même chose avec le sexe en fait. On pose la main sur le pubis, mais comme si on avait la main engluée dans le pubis, on essaie de l'arracher, de s'extraire, et on fabrique des formes de trio comme ça qui se perpétuent en boucle avec le sextet en fait.
Et vous dites nos chefs-d'œuvre sont dans nos corps. Boris Sarmatz, c'est une phrase que vous avez pu prononcer.
J'ai dit ça, moi. Belle.
Nos chefs-d'œuvre sont dans nos corps.
Ah oui, j'ai dit ça pour. Je vois un peu le contexte.
Vous avez élargi aussi toute la notion de représentation qu'on peut avoir du danseur. Vous variez les corps, vous variez la proposition de ce que peut être une perception esthétique du danseur. Vous les malmenez. La danse élargie, au-delà de la chorégraphie, vous l'appliquez aussi au corps.
En fait, cette question-là, elle vient du moment où on a fondé le musée de la danse à Rennes, et on s'est dit mais pourquoi il n'y a pas de musée en danse ou très peu, et parce qu'on n'a pas grand-chose à accrocher au mur, et finalement on s'est dit oui mais le musée c'est le corps des danseurs qui fait musée en fait, parce qu'on a nos archives, elles sont là, si on remonte une pièce de tel chorégraphe, c'est le danseur qui a travaillé avec ce chorégraphe-là qui peut au mieux le remonter, le transmettre, ça, et se dire finalement c'est dans le corps qu'on fait de l'archéologie, mais sur nous-mêmes. Donc c'est pas de l'archéologie où on où on sort chercher. C'est en fait on travaille sur nos postures, nos éducations, notre pensée, ça. Mais sur il y a une dimension comme ça intrinsèque, interne, qui ensuite se met à résonner avec les gens qu'on rencontre, les corps qu'on rencontre, et il y a une perméabilité qui s'organise, mais à partir de l'idée effectivement qu'un corps peut beaucoup. Et a beaucoup. Et j'aime bien. Moi, je suis beaucoup danseur pour d'autres chorégraphes. J'aime bien l'idée que les danseurs sont pas que les danseurs du chorégraphe. Quoi. Les danseurs, ils dansent avec d'autres chorégraphes. Ils ont leurs propres gestes. Ils donnent des gestes aux chorégraphes. Et donc, il y a quelque chose de très bâtard, en fait, de très. Il y a une hybridation du geste où on ne sait pas à qui appartient le geste. En danse, en philosophie, je pense que c'est un peu pareil. On lance une idée, une phrase. Qui est vraiment sûr de qui a dit le premier cette phrase? Est-ce qu'elle vient pas d'ailleurs? Est-ce qu'elle, j'aime bien cette l'hybridation, comme ça, l'idée que les gestes sont bâtards, qu'il y a une matière et qu'on va fouiller cette matière-là pour inventer une danse, mais c'est pas la danse du danseur et du chorégraphe, c'est la danse qui va nous rassembler tous, les regardeurs, ceux qui font, le chorégraphe, l'auteur, et puis la mémoire de ce qu'on aura vu.
Pas de doute, Alain Guyard, vous dansez avec de nombreux philosophes. Hein, il n'y a pas que danser la vie, disait Nietzsche. Vous allez du côté des présocratiques de Socrate. On en a dit un mot de Nietzsche. D'autres, vous aimez aussi à citer Agamben. Mais même si, à la façon de Boris Sharmat, sans doute, vous aimez casser le cadre et déconstruire l'éducation, ce qui a pu nous contraindre dans la pensée et les chemins qu'elle nous offre. Je voudrais qu'on revienne, pardonnez-moi, j'ai peut-être trop lu les fantasmes de Reiser enfant, qu'on revienne à la question du sexe, parce que malheureusement, la vie sexuelle d'Emmanuel Kant s'est révélée être un canular. On a été triste, et Bernard-Henri Lévy aussi, qui avait pensé avoir matière à philosopher, et je l'ai pensé comme lui. Bon, il y a Sade qui a philosophé dans le boudoir. Pourquoi, pour vous, y a-t-il une importance, une urgence, une nécessité à mettre du sexe dans la pensée?
Déjà parce que c'est le programme inaugural de la philosophie. Hein. Il me semble que philosophie, c'est bien sûr l'amour de la sagesse, mais tout le travail que Platon donne déjà dans son banquet, c'est pour montrer que le rapport à l'érotique est absolument indissociable du rapport à la philosophie. Et il me semble que on est dans une société qui est une société extrêmement pathogène, dans laquelle la norme sociale, elle consiste, je crois, même plus seulement à normer le désir, mais elle vise à réduire le désir au rang de deux besoins fondamentaux qui sont le besoin de possession à travers l'acte de consommation et le besoin de destruction à travers la peur paranoïaque de l'étranger. Quoi. Donc il y a vraiment une espèce de dépréciation du rapport au désir aujourd'hui et de ce fait il me semble que l'activité philosophante, si elle est vraiment philosophante, elle doit être désirante, et si elle est désirante, elle doit engager vraiment une rupture avec ce qui est de l'ordre de la norme sociale ou la norme politique. Donc quelque part, vouloir interroger, même de manière un peu graveleuse, le rapport à la sexualité ou au désir, il me semble que c'est quelque chose qui a assez sa cohérence aujourd'hui. Après, j'ajouterai un autre élément qui est quand même important, c'est que, bon, moi quand j'ai essayé de monter ce dispositif, parce que je crois que c'est un dispositif que j'ai constitué, quoi, que j'appelle un peu philosophie foraine, il y a effectivement, comme vous l'avez dit, un clin d'œil à Diogène qui se met en scène, qui théâtralise l'acte philosophique et puis qui théâtralise aussi le rapport à l'obscénité. C'est une question qu'il faut interroger dans l'espace public, qui théâtralise aussi le rapport entre le corps et la pensée. Et puis moi j'ai souvenir aussi de ceux qu'on appelait les moines goliards au Moyen-Âge, hein, qui ont repris la tradition de Diogène, qui fêtait la Saint-Rémy en traînant derrière eux justement un hareng par une ficelle, et qui étaient des moines défroqués qui avaient renoncé à leurs vœux religieux pour être du côté du peuple et faire un enseignement profondément irrévérencieux et rendre hommage aussi bien sûr aux gauloiseries, aux festivités, autant qu'à l'œuvre de l'esprit. Donc je crois qu'il y a tout un chemin dont j'ai pas la prétention d'être celui qui l'inaugure, mais qui interroge vraiment le rapport entre la puissance souterraine du désir et l'appel à la sagesse.
Un chemin qui passe par Bachelard.
On sait que tout alchimiste fonde ses travaux sur l'idée de transmutation des corps. Il y a, pour un alchimiste, une échelle de perfection des substances, et la vie métallique est une lente et naturelle tendance vers la perfection de l'or. Il faut donc considérer un devenir de la substance simple, devenir tout à fait étranger à la stabilité attribuée aux atomes par la philosophie atomique contemporaine. Ce devenir du minéral est un devenir de germe à fruit. Rien de plus commun dans les livres d'alchimie que la notion de maturité, de maturation des substances. Et si l'alchimiste cherche à produire de l'or en partant du plomb, c'est parce qu'il espère pouvoir hâter une maturité métallique naturelle.
Bachelard et la beauté d'une archive Radio France qui craque. Vous écoutez France Culture et c'est pour vous Alain Guyard, puisque vous avez fait votre thèse sur Bachelard justement.
Très touché par ce morceau. Ah ouais. Très beau, hein. Ouais. Belle langue, hein. Bel accent bourguignon, hein. C'est super, hein.
Morceau choisi, il aurait pu faire un petit peu le tour aussi, hein, comme vous. Bachelard, il aurait pu balader son bâton de pèlerin, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose dans le texte qu'on a entendu qui a été dit sur revenir au devenir. Parce que vous dites que vous n'avez pas particulièrement d'école philosophique, une chapelle à défendre, mais quand même, dans ce Tour de France, vous parlez de la carte d'un pays qui bouge, d'une fine résille hein, qui va se fédérer. Donc, est-ce que vous n'êtes pas aussi philosophe du corps, de la philosophie comme un sport de combat, livrant armes et concepts à des citoyens en leur posant cette question ? Est-ce qu'ils sont prêts à oser devenir autre chose ?
Oui, bah écoutez, on est bien dans un courant un peu héraclitéen, nietzschéen, bachelardien, effectivement. Mais si vous voulez, moi je serais même tenté d'aller encore plus loin. Et je pense que si on assume le statut du devenir, Boris tout à l'heure parlait du corps comme étant le réceptacle de l'archive. C'est superbe, hein, parce que ça veut dire que l'éternité, elle est plus à chercher. Et il faut effectivement oser coïncider avec le flux et la métamorphose. Et c'est encore ça des pensées qui sont très bachelardiennes. Mais si on va au bout de ce mouvement, ça veut dire aussi qu'il faut être prêt peut-être à en finir avec l'idolâtrie de la pensée même ou l'idolâtrie de la philosophie elle-même. Parce que je pense aussi que la tentation, elle est grande de vouloir s'imaginer que la philosophie pourrait par la pensée saisir le réel, pourrait par le discours enfin enserrer le monde et le saisir de manière définitive. Et aller au bout d'une pensée, aller au bout du mouvement héraclitéen, aller au bout du défi nietzschéen, ben peut-être qu'à un moment, c'est dire peut-être que il faut peut-être oser abolir le rapport à la pensée en tant qu'elle a la prétention de saisir le réel. Et là, c'est peut-être commencer à affleurer aux rivages qui sont les rivages de la poésie. Peut-être que l'horizon, il est là quand même.
Vous parlez de la divinisation du terrestre.
La divinisation du terrestre, hein, Nietzsche parlait de retrouver le sens de la terre. Je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre aussi qu'il s'agit de pas négliger, qu'il s'agit de pas oublier. Hein. Il s'agit de restituer effectivement au corps aussi sa dignité. Je crois que c'est l'horizon de la philosophie et en même temps ça a été son aurore. Parce que bon, moi je suis vraiment fasciné par la figure de Socrate. Et quand on se penche sur Socrate, on découvre que tous les exemples qu'il prend pour illustrer ses propos sont toujours des exemples d'artisans. De gens de métier qui travaillent, qui sont des courroyers, qui sont des dresseurs de chevaux, qui sont des médecins, qui sont des médicastres. On est donc effectivement dans un rapport qui est un rapport au geste, qui est un rapport au corps, comme si la véritable sagesse ici, elle était à l'apogée du silence et peut-être à la célébration du corps rendu à son intelligence.
Boris Charmatz, si on doit peut-être renoncer à enserrer le réel par la pensée, comme semble le suggérer Alain Guyard, pour préférer la poésie.
En tout cas, inversement, on idéalise aussi la danse, le corps du danseur, le la chorégraphie pure et que et du coup c'est très proche en fait le d'accepter que le bah non il y a des mouvements, il y a plein de gens qui bougent qui se disent pas danseurs, qui font que ça, on partage des choses et dans Danse de nuit c'est vraiment très clair. Bien sûr il y a la chorégraphie des danseurs eux-mêmes qui sont incroyables, c'est de la chorégraphie sur béton, mais la chorégraphie et la danse elle participe encore une fois des lumières, du texte, des gens qui sont là, qui décident ou pas de suivre ce qu'on fait, hein, de nous suivre ou de nous imiter même. Il y avait des lycéens à la Courneuve qui regardaient. Il y en a qui
étaient excités, qui étaient déplacés, mal à l'aise. Ils étaient dans l'inconfort que vous recherchez.
J'ai adoré en fait. Il y en a qui nous
avec leur téléphone portable brandi pour filmer.
Ils étaient trop forts. Ils disaient non mais attends. Enfin, ils réagissaient, ils parlaient avec nous, ils bougeaient avec nous.
Ils parlaient pendant le spectacle.
Pendant le spectacle. Et du coup, j'aimais vraiment ça. Parce que sur les places publiques, ça arrive, parce qu'on est sur la place, il y a des gens qui passent, qui discutent, qui parlent, qui font du vélo. Mais là, on est dans une halle, on va dire enfermée quand même à la Courneuve. Mais même avec ça, avec ce public-là, ben il y a des gens qui bougent. Il y a des c'est la notre danse, elle n'invente pas le verbe, elle n'invente pas le mouvement. Il y a déjà du verbe, il y a déjà du mouvement, il y a déjà peut-être de la philosophie. Mais il s'agit de tisser, de travailler, de trafiquer avec ça et que ça fasse sens peut-être en acceptant aussi les limites d'une réification du corps, ça c'est pour nous, ou pour vous, les limites d'une réification de l'idée, d'une pensée qui va nous aider à tout comprendre ou à saisir d'un monde qui est complexe.
Alain Guyard.
À vous entendre, Boris, j'étais intervenu une fois dans une salle de danse, une salle de spectacle de danse, pour un spectacle d'Anne Lopez à Nîmes. Sa compagnie, c'est les Gens du Quai. Et le jeu qu'on avait fait ensemble, c'est qu'en fait, j'étais devant la salle de danse et j'ai fait une visite de la répétition. Et les gens étaient très troublés parce qu'ils savaient pas qui jouait quoi. Est-ce que la répétition n'était pas une répétition, mais un véritable acte de danse? Est-ce que c'était inabouti ou achevé? Et de la même manière, est-ce que mon jeu était simplement un texte que j'avais appris ou de la philosophie? Et le glissement était très intéressant. Donc il me semble que là, il y a effectivement des choses qui se croisent.
Ping-pong. C'est déjà fini.
Merci beaucoup à tous deux, Boris Charmatz, Alain Guyard. Boris Charmatz, votre danse de nuit, c'est demain et jeudi au Beaux-Arts à Paris, puis au Musée du Louvre du 19 au 23 octobre, et ensuite à Rennes, au Théâtre National de Bretagne en novembre, avec tous les spectacles parisiens, dans le cadre du Festival d'automne. Alain Guyard, la philo vagabonde, signée Johan Lafort, eh bien elle est déjà dans toutes les bonnes salles, et je le disais, vous serez à Nancy dans deux jours.
Oui, je crois que je serai dans le hall du Conseil Général, un lieu absolument improbable.
Ça rime, c'est déjà de la poésie.
Philosophie mauvais garçon avec Alain Guyard et aussi avec la danse de Boris Charmatz. Le ping-pong est un corps radiophonique qui se pense et qui se meut en équipe. À la rédaction, Aïssatou Ndoye, Jeanne Aléo, Seam Boutata et Lila Bozès. À la réalisation, Thomas Beau. À la prise de son ce soir, Clément Daté et Alex Dong.
Demain dans Ping Pong, des voix avec André Marviel et Nathalie Dessay.